Chapitre 1. J'ai peut-être une solution au problème épouse. Elle semble évidente a posteriori, une caractéristique fréquente des découvertes scientifiques majeures. Mais je ne l'aurais probablement pas trouvée sans un enchaînement d'événements qui n'était pas prévu à mon programme. Cette séquence s'est amorcée parce que Jean a insisté pour que je donne une conférence sur le syndrome d'Asperger qu'il s'était précédemment engagé à assurer. L'horaire était extrêmement contrariant. La préparation pouvait se faire en simultané avec la consommation du déjeuner, mais le soir en question, j'avais programmé 90 minutes pour le ménage de ma salle de bain. Cela m'obligeait à choisir entre trois options, dont aucune n'était satisfaisante. 1. Nettoyer la salle de bain après la conférence, ce qui entraînerait un déficit de sommeil avec pour résultante une réduction de mes performances mentales et physiques. 2. Reprogrammer le ménage au mardi suivant, ce qui entraînerait une période de 8 jours d'hygiène de salle de bain douteuse, avec risque résultant de maladie. 3. Refuser de faire la conférence, ce qui entraînerait une mise en péril de mon amitié avec Jean. J'ai exposé le dilemme à Jean. Comme toujours, il a eu une autre idée. « Don, je paierai quelqu'un pour nettoyer ta salle de bain. » J'ai rappelé à Jean, une fois de plus, que toutes les femmes de ménage, à l'exception peut-être de la Hongroise qui porte une jupe courte, commettait des erreurs. La Hongroise à jupe courte, qui avait été la femme de ménage de Jean, avait disparu à la suite d'un problème entre Claudia et lui. « Je vais te donner le numéro de portable d'Eva. Ne lui parle pas de moi, c'est tout. Et si elle m'interroge, comment veux-tu que je réponde sans parler de toi ? Explique-lui simplement que tu prends contact avec elle parce qu'elle est la seule femme de ménage à faire du bon boulot. Et si elle te parle de moi, ne dis rien. » C'était une excellente solution et une bonne illustration de l'aptitude de Jean à résoudre les problèmes sociaux. Eva serait contente de voir ses compétences reconnues et pourrait peut-être même se révéler adéquate pour assumer cette tâche de façon permanente, libérant ainsi de mon programme une moyenne hebdomadaire de 316 minutes. Jean devait trouver un remplaçant pour sa conférence parce qu'il avait l'occasion d'avoir un rapport sexuel avec une universitaire chilienne venue assister à un congrès à Melbourne. Le programme de recherche de Jean l'oblige à avoir des rapports sexuels avec des femmes appartenant au plus grand nombre de nationalités possibles. En tant que professeur de psychologie, il s'intéresse beaucoup à l'origine de l'attirance sexuelle humaine qui est, selon lui, largement déterminée par les gènes. Cette conviction est cohérente avec sa formation de généticien. 68 jours après m'avoir engagé comme chargé de recherche, Jean a obtenu la direction de l'Institut de psychologie, une nomination très controversée qui visait à faire de l'université un pôle d'excellence en psychologie évolutionniste et à accroître sa visibilité. Pendant la période où nous avions travaillé ensemble à l'Institut de génétique, nous avions eu de nombreuses discussions intéressantes qui se sont poursuivies après sa nouvelle affectation. Une raison qui aurait suffi à rendre notre relation satisfaisante à mes yeux. Mais Jean m'a également invité à dîner chez lui et s'est livré à d'autres rituels d'amitié, ce qui a entraîné une relation personnelle. Sa femme Claudia, qui est psychologue clinicienne, est aussi mon amie maintenant, ce qui en fait deux en tout. Pendant quelque temps, Jean et Claudia ont essayé de m'aider à régler mon problème épouse. Malheureusement, leur approche reposait sur le paradigme traditionnel du rendez-vous auquel j'avais précédemment renoncé, en estimant que les probabilités de succès ne justifiaient ni l'effort nécessaire, ni les expériences négatives. J'ai 39 ans, je suis grand, en bonne santé et intelligent, j'occupe une position sociale relativement élevée et je touche un salaire supérieur à la moyenne en tant que professeur associé. En toute logique, un grand nombre de femmes devraient me trouver attirant. Dans le règne animal, je n'aurais pas de difficulté à me reproduire. Il y a pourtant en moi quelque chose qui rebute les femmes. J'ai toujours eu du mal à me faire des amis et il semblerait que les déficiences à l'origine de ce problème affectent également mes tentatives pour nouer des relations sentimentales. Le désastre de la glace à l'abricot en offre un bon exemple. Claudia m'avait présenté à l'une de ses nombreuses amies, Elisabeth, une informaticienne remarquablement intelligente qui souffrait d'un problème de vue corrigé par des lunettes. Je mentionne ce détail parce que, en me montrant une photo d'Elisabeth, Claudia m'avait demandé si ses lunettes ne me dérangeaient pas. Une question incroyable, de la part d'une psychologue. Alors qu'elle cherchait à évaluer si Elisabeth pouvait être une partenaire adéquate, une personne qui vous apporte une certaine stimulation intellectuelle, avec qui on peut partager des activités et peut-être même se reproduire, le premier souci de Claudia était de savoir ce que je pensais de sa monture de lunettes. Un choix dont elle n'était probablement même pas responsable, mais qui résultait des conseils d'un opticien. Voilà le monde dans lequel je dois vivre. Puis Claudia avait ajouté, comme si c'était un obstacle, « Je te préviens, elle a des idées très arrêtées. »
Repose-t-elle sur des faits ?
Oui, je pense.
Parfait. La description aurait pu s'appliquer à moi.
Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant thaï. Les restaurants sont des terrains minés pour les inadaptés sociaux, et j'étais nerveux, comme toujours en pareilles circonstances. Nous avons pourtant pris un excellent départ, en arrivant tous les deux à 19h précises, comme prévu. Une mauvaise synchronisation représente une perte de temps considérable. Nous avons franchi l'épreuve du repas sans qu'elle me reproche la moindre erreur sociale. Il n'est pas très facile de faire la conversation tout en se demandant si on a le regard posé sur la bonne partie du corps de son interlocutrice. Mais je me suis concentré sur ses yeux à lunettes, conformément à la recommandation de Jean. Ce qui a rendu quelque peu imprécis le processus de consommation alimentaire, sans qu'elle ait toutefois l'air de le remarquer. Au contraire, nous avons eu une discussion extrêmement productive sur les algorithmes de simulation. Quelle femme intéressante ! J'envisageais déjà la possibilité d'une relation permanente. Le serveur a apporté la carte des desserts et Elisabeth a dit
« Je n'aime pas les desserts asiatiques. »
Il s'agissait très certainement d'une généralisation infondée, reposant sur une expérience limitée, et cela aurait peut-être dû me mettre en garde. Cette remarque m'a cependant donné l'occasion de faire une suggestion constructive. « Nous pourrions aller prendre une glace en face ?»«
Excellente idée, à condition qu'ils aient de l'abricot. »
J'estimais que, pour le moment, l'affaire était bien engagée. Et je n'ai pas imaginé que cette préférence pour l'abricot poserait un problème. J'avais tort. Le glacier disposait d'un vaste assortiment de parfums, mais n'avait plus d'abricot. J'ai commandé deux boules pour moi, chocolat piment et réglisse, et j'ai demandé à Elisabeth de faire un autre choix.
S'il n'y a pas d'abricot, je m'en passerai.
Je n'arrivais pas à y croire. Toutes les glaces ont à peu près le même goût, du fait de l'engourdissement des papilles gustatives provoquées par le froid. C'est particulièrement vrai des parfums aux fruits. Je lui ai suggéré de prendre mangue.
Non, non, merci, ça ira comme ça.
Je lui ai expliqué dans le détail la physiologie de l'engourdissement des papilles gustatives. J'étais convaincu que si j'achetais une glace à la mangue et une autre à la pêche, elle serait incapable de faire la différence, de sorte que, par extension, elle pouvait parfaitement choisir l'une ou l'autre en remplacement de l'abricot.
Ce sont des parfums complètement différents, a-t-elle objecté. Si vous êtes incapable de distinguer la mangue de la pêche, tant pis pour vous.
Nous étions en présence d'un différend simple et objectif, facile à régler expérimentalement. J'ai commandé la plus petite portion de chacun des deux parfums, mais au moment où la serveuse m'a tendu les glaces et où je me suis retourné vers Elisabeth pour lui demander de fermer les yeux et de se livrer à l'expérience prévue, elle n'était plus là. Voilà pour les idées reposant sur des faits et pour les prétentions scientifiques de cette informaticienne. Claudia m'a fait remarquer plus tard que j'aurais dû abandonner l'expérience avant qu'Elisabeth ne parte. C'est évident. Mais à quel moment ? Quel était le signal ? Voilà le genre de subtilité qui m'échappe. Tout comme m'échappe la raison qui ferait d'une sensibilité exacerbée à d'obscurs indices concernant des parfums de glace une condition préalable pour être le partenaire de quelqu'un. Il paraît raisonnable de supposer que certaines femmes n'en exigent pas autant. Malheureusement, le processus qui pourrait permettre de les trouver s'avère d'une inefficacité invraisemblable. Le désastre de la glace à l'abricot m'avait coûté une soirée entière de ma vie, avec pour unique compensation que j'en sais un peu plus sur les algorithmes de simulation.